Ça va mieux, Jean-François Mignard, Jacques Lavergne, bonjour.
Bonjour.
Ça va mieux, l'émission, l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors, une actualité que nous allons commenter aujourd'hui avec Laura Ortiz, qui nous fait le plaisir de revenir, puisqu'elle était déjà venue, et on aimerait qu'elle vienne quasiment systématiquement. Laura Ortiz, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter, qui est professeure agrégée des universités en droit public et qui a très longtemps dirigé l'Institut d'études politiques de Toulouse et qui préside maintenant un certain nombre d'associations, je crois. ESOPA, c'est ça, Laure ?
Non, ça n'existe plus.
Ah, ça n'existe plus. Il faut mettre les fiches à jour. Alors, ça nous trompe.
C'était un réseau des IEP mafieux. De région, mais ça a complètement avorté depuis.
Bon, voilà. Bien, écoutez, nous ne parlons pas de ce qui a avorté. Et puis, nous avons nos étudiants journalistes de l'IAJT, l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse, Léna Borance et Mathis Desbrilles avec nous.
Qu'on accueille chaleureusement.
Et voilà, et qui auront certainement plein de choses à nous dire. Surtout sur les sujets l'Europe et les Français, les élections européennes, la liberté d'expression dans la France de Macron, ou ce qui en reste de la liberté d'expression, pas de Macron, et puis peut-être, si on a un peu de temps, on parlera de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, et Jean-François Mignard, qui est auprès de cette question, nous dira peut-être où on en est sur nos Basques qui ont été jugés à Paris, et on attend, je crois, Jean-François...
Le délibéré pour le 16 juin,
c'est-à-dire demain, bon.
16 mai, pardon.
16 mai, c'est demain. Voilà, c'est CVM, ça va mieux, c'est parti, c'est sur Esprit Occitanie, la radio web. Et vous savez qu'on commence toujours par une citation qui est la suivante. « Confrontés à un enchevêtrement inédit de conflits, les Européens doivent améliorer leur intelligence du monde s'ils entendent défendre leurs intérêts face à des États ou à des organisations bien décidées à exploiter leur désarroi au maximum et à leur imposer leurs propres valeurs. » Fermez les guillemets. Non, ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. C'est un historien qui est directeur de l'IFRI, Alain Gomard. L'IFRI, comprenez, Institut français des relations internationales. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, je vous donnerai deux références de livres d'Alain Gomard que j'ai lus récemment. Quelques chiffres. Xi Jinping, Emmanuel Macron, on appelle aujourd'hui la Chine à plus de coordination stratégique avec l'UE.
Un grand moment pour les droits de l'homme.
Voilà, oui, bien sûr. Et pour le commerce international aussi. Alors, les crises majeures en cours en Ukraine, au Proche-Orient, bon, on a vu mieux en matière de coordination, hein, surtout TTSO nous le rappelle. Pendant que l'UE en est à sa 13e vague de sanctions contre la Russie, bien la Chine est devenue l'assurance vie de Moscou. Les exportations chinoises vers la Russie, on parlait de chiffres en voilà un, ont été de 64% plus importantes qu'avant la guerre. Pékin achète désormais la moitié du pétrole russe, donc de quoi financer la guerre de M. Poutine. Et puis surtout, la Chine fournit à l'armée russe 90% des composants microélectroniques nécessaires à la production de missiles, de chars et d'avions que l'Europe et les États-Unis ne lui vendent plus. Vous voyez, c'est un bon allié, c'est dommage, mais ce n'est pas le nôtre.
On peut reprendre à l'occasion l'éternelle citation d'Anatole France, « On croit mourir pour la patrie,
on meurt pour des industriels ». Voilà, c'est toujours la même antienne. Alors commençons par l'Europe, les Français et les élections européennes. Qui m'ont donné l'occasion d'écrire un édito que je vais vous, qui est en ligne, mais que je vais vous resservir si vous me passez ce terme. Édito dans lequel je disais qu'il est des moments où l'on ne peut se mentir ou occulter la réalité, aussi dérangeante soit-elle. Notre monde devient de plus en plus chaotique, toujours plus dangereux, difficilement lisible, sinon compréhensible. Cela ne nous sauvera pas de se remémorer sans piternel dans la voix. Vous connaissez ça, ah, c'était mieux avant. Où est donc passée ma France ? se vautrer dans la nostalgie où celui-ci, donc le passé, paraît de vertus qu'il était loin d'avoir, mais sans l'oublier. Bien encouragé en cela par des partis populistes à la vacuité intellectuelle sidérale qui pratique l'enfumage des électeurs avec un art consommé, tel par exemple le Rassemblement National. Il faut redevenir sérieux, conscient des réalités, de nos forces, de nos faiblesses, de nos menaces, mais aussi de nos opportunités. Les Trente Glorieuses sont achevées depuis longtemps. Nous avons au cours de celles-ci bien corrompu la planète, déstabilisé ses mécanismes essentiels, bien avant elle envahi et pillé bon nombre de pays sous le prétexte de leur apporter la civilisation entre les guillemets et de leur apporter à la pointe du sabre ou du fusil et de tout temps dispenser des leçons de droits de l'homme à la terre entière. Tout cela nous a permis d'avoir une belle et bonne conscience satisfaite d'elle-même, et nous a permis de vivre dans une douce torpeur et un laisser-aller jouisseur. Eh bien, il faut se faire une raison. La fête est finie, même si tout le monde n'y a pas dansé, comme vous le savez. Et comme l'a écrit Robert Louis Stevenson, ça va vous rappeler quelques petites choses, tôt ou tard, chacun s'assoit à un banquet des conséquences. Eh bien, mes amis, nous y sommes. La planète brûle, le changement climatique, la perte accélérée de la biodiversité, la pollution protéiforme, la rareté de biens naturels indispensables menacent la survie de l'humanité, les guerres, la violence, la cupidité, le cynisme, le capitalisme débridé en font de même. Et au milieu de cet océan de tensions, la France est ballottée, sa voix inaudible, sa puissance de jadis est devenue aujourd'hui inexistante, mais elle a quand même encore quelques beaux atouts, mais ne pourra pas les valoriser seule, nous replier frileusement sur nous-mêmes, pratiquer l'entre-soi, gérer la pénurie, ne constitue certainement pas un avenir séduisant. Nous ne pesons rien face à une Chine dominatrice en pleine expansion, animée par la volonté de détruire nos démocraties, nos valeurs, nos états de droit. Et une Chine qui, pour ce faire, s'appuie sur des quasi-vassaux belliqueux, vous les connaissez, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. Une Chine qui instrumente directement ou indirectement une foultitude d'États, dit improprement du Sud global, un terme qui ne veut plus dire grand-chose et qui n'a jamais voulu dire grand-chose d'ailleurs. Autrefois tenus pour quantité négligeable, mais qui aujourd'hui veulent, et à juste titre, faire entendre leur voix dans le concert des nations, en jouant de la politique du non-alignement ou du multi-alignement à géométrie variable. Une Chine qui sait très bien cultiver en sous-main l'animosité de certains à l'égard de l'Occident, lequel, il faut quand même bien le reconnaître, n'a pas toujours été irréprochable, ce qui est un doux euphémisme. Les États-Unis, notre allié historique, ont un avenir politique et démocratique beaucoup trop incertain pour être fiable et sont surtout préoccupés, c'est quelque part un peu logique, par leurs intérêts propres. Et quelque chose à ne jamais oublier, une défaite de l'Ukraine serait catastrophique pour l'Europe. Alors l'alliance faisant la force, c'est au sein de l'Union européenne que la France pourra tirer son épingle du jeu. Mais une Union européenne qui doit évoluer, se transformer même, retrouver le sens de l'homme, bâtir un projet crédible pour un avenir plus désirable, plus juste en matière sociale, fiscale, environnementale, mais aussi devenir une puissance au sens plein et politique du terme. Il faudra revoir l'équilibre des institutions, les rendre moins complexes, plus lisibles, mieux accessibles à la compréhension de tous et surtout redonner du poids au Parlement et moins à l'organisation intergouvernementale. Bref, il y a du travail à accomplir et vous le voyez, c'est du lourd. Notre responsabilité d'électeur est fondamentale, notre avenir et celui de nos descendants est en jeu car nous sommes à la croisée des chemins. Nous devons voter même si les listes sont composées soit d'inconnus soit de troisième couteau de la politique. Il faut espérer, on a connu des papes dits de transition qui, sitôt investis, se sont révélés être des dirigeants dotés d'une vision et de charisme. Ceux que nous porterons au Parlement européen défendront nos intérêts au cours de ces cruciales prochaines années. Alors évitons d'y élire des gens qui veulent affaiblir l'Europe en la minant de l'intérieur et ou n'ont pas le niveau intellectuel et technique nécessaire à comprendre et gérer les graves difficultés existentielles qui sont devant nous. Suivez mon regard, je les ai nommées tout à l'heure. Sur cette question, Jean-François Mignard.
Oui, c'est excellent.
Hein,
c'est tout à fait ce que je voulais dire.
Voilà. Enlève de la bouche.
Peut-être là. Alors, que dire face à cet exercice de repentance de collapsologue boomer qui est en pleine
c'est ça
en pleine crise le D'abord, deux choses. La première des choses, mais c'est peut-être... Alors, je partage l'idée que, bien entendu, l'extrême droite est un danger et est en train de faire un coup politique sur un champ de ruines politique, pour le coup, et que c'est certainement en France, mais partout en Europe et aussi ailleurs dans le monde, aujourd'hui un danger qui est à nos portes, face auquel d'ailleurs on peut être affligé du manque d'épaisseur politique des gens qui pourraient être une alternative à cette extrême droite là, qui est d'ailleurs puissante en raison de cette médiocrité politique, parce que je veux dire aujourd'hui on assiste à une bagarre de chiffonniers comme si, alors d'abord ça rappelle de drôles de trucs de l'histoire. Alors c'est vrai que l'histoire elle repasse pas les plats, mais ça me rappelle quand même une époque dans laquelle, je veux dire, on était à régler des comptes de manière sordide à coup d'accusations d'antisémitisme d'un côté, de néolibéralisme planqué de l'autre, alors que le danger était à nos portes. On a connu ça dans l'histoire. Ça sera pas certainement pareil, mais ça fait drôlement résonance. Mais ce que je voulais dire, c'était, alors, sur le contenu, ce que Jacques vous dites sur la Chine, alors je suis pas un grand géopolitiste, mais je me demande si on n'est pas plus, alors, bien sûr, si on n'a pas tendance des fois à regarder ce qui se passe à l'échelle du monde avec les lunettes du passé, avec les grandes nations, avec les deux pôles qui s'affrontent ou des choses comme ça. Il me semble qu'on est plus, moi, on est plus dans du multipolaire complexe avec les enjeux politiques, alors économiques, mais aussi politiques, se jouent à des échelles qui sont des échelles d'identité, qui ne sont pas d'État-nation, mais qui sont d'identité collective autre qu'un pays, voilà. Et donc, ça amène de la complexité dans ce qui se passe. Il faudrait complexifier peut-être un petit peu le diagnostic, mais le danger chinois, il est là, mais c'est pas le seul. Et on l'avait déjà évoqué sur la question que j'ai fait l'online, mais sur la question du dernier échange qu'on a eu sur les élections européennes, l'impression que le modèle politique s'essouffle, et y compris le modèle de fonctionnement de désignation des responsables, au point que des élections qui deviennent des fouloirs, et qui se limite pour l'essentiel à l'échelle nationale, montre bien que l'Europe n'existe pas en tant qu'enjeu politique dans la tête, je pense, de la plupart de nos concitoyens et de nos concitoyens, ce qui est dramatique, mais c'est le produit du fait que l'Europe s'est pas construite en tant que telle, et qu'on fait pas quelque chose de l'ordre d'un identitaire social à partir du marché et de la concurrence libre et non faussée, voilà. Et je l'ai déjà dit la dernière fois et je crains que ça se confirme parce que ça me fait pas du tout rigoler. On en paie le prix politique aujourd'hui.
Laura Ortiz.
Oui, si c'est un appel à réagir à votre édito qui est très riche, très dense, il y a plusieurs choses. Bon, moi, je souscris à l'appel à la mobilisation sur les élections européennes et à l'enjeu que représente l'Europe. Mais enfin, c'est pas tellement là-dessus que je veux intervenir. Moi aussi, je me formulais en écoutant les mêmes réserves un peu que Jean-François. Et notamment, je suis surprise par la place que vous donnez à la Chine. Et un peu comme si, pour reprendre le langage médiatique contemporain, la Russie et bien d'autres États n'étaient que des proxys de la Chine. J'ai vraiment l'impression que la diabolisation de la Chine nous est aussi servie par les États-Unis, beaucoup. Et bon, je veux bien qu'il y ait un danger, que ce soit une véritable rivalité économique notamment qui se joue, mais j'ai vraiment du mal à penser qu'il y ait cet ascendant et cette manipulation des États par la Chine. J'ai vraiment l'impression, en effet, qu'on a affaire à une multipolarisation très subtile, très complexe, très mouvante. Regardons, par exemple, comment se sont positionnés le Brésil, etc. Et que chacun joue sa partition.
L'Inde, par exemple, voilà. Dont on n'a pas parlé.
Et que chacun joue sa partition et suit son enjeu. Je veux bien croire, moi, que l'agenda de Modi n'a pas grand-chose à voir avec l'agenda de Xi Jinping. Et en même temps, c'est sûr qu'il joue des parties qui sont toutes liées, bien sûr. Comment ne le serait-on pas ? Et les rapports sont très compliqués à analyser, je trouve. Par exemple, la relation Russie-Turquie, pour ne citer qu'elle, par exemple. Et donc, voilà, on a affaire à non plus à la disparition complète non plus des pôles. La disparition de la bipolarisation, ça c'est sûr. Mais voilà, on a affaire à des rapports de force avec des jeux d'alliances extrêmement compliqués. Pour moi, dont l'Afrique est un théâtre, par exemple, très très difficile à décoder ce qui se passe en Afrique. Bon, voilà, ça c'est une première réflexion sur le papier, sur l'édito. Et une deuxième réflexion, là, sur qui s'adresse peut-être plus d'ailleurs à la critique de Jean-François, c'est que je pense qu'il s'est passé quelque chose, là, dans la mobilisation sociale autour des élections européennes. C'est-à-dire que les élections européennes n'ont jamais intéressé les Français, me semble-t-il. Hein. Et pendant longtemps, on n'a qu'à regarder, c'était un score d'abstention, par exemple, les européennes. Et je pense que on a changé, c'est-à-dire que de plus en plus, l'enjeu de l'élection aux européennes s'est accru. Et moi, je vois autour de moi, mais je lis aussi les sondages ou les études, on voit qu'il y a une montée, une augmentation en tout cas, de la détermination des gens à aller voter. Donc, voilà, ça, première chose, je ne veux pas dire qu'on va faire des scores de participation, mais peut-être que ça sera justement moins catastrophique que ce qu'on pouvait prédire. Et je pense aussi que ça, c'est très directement lié au fait que la plupart des enjeux, des crises, des difficultés auxquelles se sont heurtés les Français, mais dans leur vie quotidienne, ce sont des enjeux qui sont clairement plus du tout nationaux, mais carrément pan-européens, pour pas dire plus. Par exemple, la crise sanitaire, par exemple, les crises financières de 2009, 2010, mais maintenant avec l'inflation. Un certain nombre de crises, la crise migratoire, la crise écologique, enfin, plein de problèmes absolument majeurs aujourd'hui qui ne peuvent pas trouver leur résolution dans l'espace national. Et ça, c'est donc quelque chose de très complexe parce que et c'est comme ça que j'explique que le Front National, par exemple, ne plaide plus le Frexit. Non. Alors, on est arrivé à un discours qui tente de conjuguer d'une façon, là aussi, très complexe, à la fois le niveau européen et un sursaut du nationalisme. Dans les crises, évidemment, il y a la guerre, l'Ukraine, qui recode toutes les questions, qui montre aussi la misère de la défense européenne, la dépendance que nous avons pour la survie même de l'Europe, vis-à-vis des États-Unis et ce qui peut se passer demain si Trump revient, alors qu'il nous avait dit qu'on aille quand même se rhabiller à un moment donné. Je pense là que ça peut, ces phénomènes, et notamment l'Ukraine, peut expliquer la remontée. Et j'ai lu un truc, c'était ça que je regardais un peu dans l'émission pendant que vous parliez, il y a étude qui il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup intéressé. C'est une étude, je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une étude qui a été faite par Sciences Po Paris, la Fondation Jean Jaurès, Le Monde et la Fondation Montaigne, l'Institut Montaigne et l'Ipsos. Et c'est une étude, justement, d'analyse du vote. Tu l'as vu, ça? Et c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien la progression depuis novembre 23 des intentions de vote. Ce que l'on voit, c'est que la très grande majorité disent ne pas du tout faire de l'élection un pour Macron ou contre Macron. La très grande majorité dit que ce n'est pas du tout ça. Mais la grande majorité dit aussi que ce qui sera déterminant dans le vote, c'est la dimension nationale des problèmes. Et donc, ça vient corroborer cette articulation. Et cette articulation aujourd'hui complexe entre nationalisme, appel au souverainisme et en même temps européanisme dans lequel on s'inscrit. Donc je pense que si on part d'une analyse qui les oppose radicalement, qui les antagonise, on passe complètement à côté du problème. Enfin voilà, je peux aussi laisser la parole à d'autres, donc je ne veux pas abuser.
On va se tourner vers nos jeunes journalistes en herbe. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire ? Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne, l'Europe, ou pas ?
C'est un sujet qui a son importance, surtout en tant que jeune, parce qu'on parle de notre futur et on représente le futur. Après, c'est sûr que comment c'est apporté dans la vie de tous les jours, les élections européennes, je ne pense pas que la majorité des jeunes soient passionnés par ça, aux grandes dames de son importance. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que chez les jeunes, il y a un souci d'aller voter. J'espère me tromper en voyant les chiffres d'abstention ou non. Mais moi, d'un point de vue personnel, oui, ça m'intéresse. Mais j'ai bien peur que ça n'intéresse pas la majorité des jeunes.
Léna ?
Oui, c'est ça, c'est pareil. Moi aussi, ça m'intéresse, c'est important. Mais d'un côté, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas. Les élections européennes, même les élections tout court, on ne nous en parle pas. Et c'est un sujet qui est méconnu, je pense, d'une grande partie des jeunes.
On ne vous en parle pas, mais rien ne vous empêche de vous informer, surtout vous d'ailleurs, compte tenu de la profession que vous voulez embrasser, mais je sais que vous avez déjà un peu travaillé là-dessus, mais c'est quand même aussi à vous, et comme à tous les électeurs, de faire l'effort aussi de s'occuper de votre environnement. Laure ?
Oui, Léna, je suis curieuse, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que c'est les élections européennes, parce que ça, à la limite, je peux comprendre que les élections européennes ne branchent pas du tout les jeunes, et d'ailleurs même les vieux, pour tout vous dire. Hein. Moi, j'ai beaucoup... Je me suis beaucoup intéressée aux élections, parce que vous m'avez proposé de venir ici. Sinon, c'est pas du tout sûr que... Mais en revanche, je fais une différence avec les questions européennes. Alors là, les questions européennes, les politiques européennes, la façon dont elles impactent notre vie, la façon dont l'Europe s'est positionnée, par exemple, pendant toute la crise sanitaire, acheter les masques, comment est-ce qu'on va se débrouiller de la souveraineté alimentaire, justement, les bourses Erasmus, c'est pas vrai, il y a plein d'impacts dans la vie quotidienne. Et donc ça, les questions européennes, le désir de voyager, de connaître, de penser qu'on a une solidarité en Europe, je pense que ça peut mobiliser les jeunes ou pas, mais c'est une question que je vous pose. Donc moi, je ferais la distinction entre le processus électoral, la connaissance même des institutions européennes, et puis après le fait, au contraire, de savoir que qu'il y a une solidarité, une interdépendance entre les États, et que ça peut impacter votre vie quotidienne, et que ça l'impacte. Est-ce que vous faites une différence ou pas entre les deux ?
Léna, non ?
Oui.
Allez-y. Moi, je vous poserai, juste oui, pour Léna, compléter la question de Laure, pour rebondir, pendant que Léna réfléchit à sa réponse. Comment on peut s'intéresser aux questions européennes qui effectivement impactent notre vie de tous les jours et pas du tout au processus électoral qui, d'une manière ou d'une autre, est destiné à régler ces questions?
Non, mais bien sûr, mais...
Me semble que c'est pas tant du processus électoral que des institutions européennes qui sont à un niveau de complexité tel, culturellement assez éloigné, y compris de nos propres repères à nous, au regard de nos institutions nationales, et dont on mesure que des choix n'ont pas été faits. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'équilibre dans lequel le poids des gouvernements par rapport à une Europe, par rapport à des décisions qui seraient à l'échelle européenne, c'est-à-dire à l'échelle carrément d'une fédération, on est au milieu du gué au niveau institutionnel européen, me semble-t-il, qui produit une telle complexité que même ma génération à moi, est incapable de la transmettre, y compris, je veux dire, moi je connais plein de gens autour de moi dont le travail c'est de transmettre des choses à des jeunes et pour qui l'Europe c'est une espèce, comme aurait dit De Gaulle à la grande époque, c'est machin ce truc qui fait que, entre les députés, la conférence intergouvernementale,
les conseils différents, la commission, la réunion
des ministres des affaires, enfin, je veux dire, c'est à un moment donné, il me semble, encore une fois, qu'on a été au milieu du guet, qu'on a fabriqué, encore une fois, un espace qui est un espace économique, et qu'on n'est pas arrivé au bout de la logique au niveau du choix, qui est du choix politique, avec tous les dangers que ça représente. Moi, par exemple, j'ai tendance à être plutôt fédéraliste. Et je sais que politiquement, c'est très dangereux aujourd'hui. Mais si on veut faire l'Europe, c'est à ce prix-là qu'on la fera. Mais aujourd'hui, on est coincé entre des logiques différentes. Je m'excuse d'avoir répondu spontanément à la place des jeunes.
Tu n'as pas répondu.
Alors non. Oui, les élections en elles-mêmes, c'est pas, enfin, elles sont pas méconnues, mais c'est plutôt, comme il disait, les institutions européennes qui sont complètement méconnues et qui sont complexes quand même à comprendre, et tout ce qui est autour et tout ce qui nous impacte dans notre quotidien.
Moi, je le comprends d'autant plus que quand même, on voit une disqualification totale du Parlement en France. Les citoyens font l'expérience de ça, c'est-à-dire que ça compte de moins en moins.
Et enfin, ça compte de moins en moins parce que M. Macron le shunte systématiquement, pour aller créer des commissions ou des réflexions d'électeurs.
Ou du 49-3,
voilà,
ou des commissions mais qu'on ne suit pas. Donc il y a une... Et puis, au niveau européen, donc, on est en droit de se demander quel est le pouvoir réel du Parlement européen. Parce que même si, avec l'évolution des traités, le Parlement européen a plus de poids, notamment avec le mécanisme de la codécision, il n'en reste pas moins qu'il y a un tel poids des États, un tel poids des chefs d'État au sein du Conseil, que moi, je comprends que les gens se disent « bon, c'est pas ça qui va déterminer la politique de l'Europe ». Mais néanmoins, c'est pas parce qu'ils n'iraient pas voter ou se désintéresseraient des élections européennes qu'ils se désintéresseraient de l'existence même
donc,
de l'Europe. Donc, ils
ne s'intéressent pas, mais il faut quand même, à un moment ou un autre, peser. Par exemple, je ne voulais pas citer tout à l'heure, mais est-ce que vous savez ce que c'est que la convergence NBIC? Pour nanotechnologie, biotechnologie, sciences de l'information et sciences de la cognition. Les populations n'ont pas du tout, dans aucun des pays, été associées lors de son élaboration par les technocrates européens qui courent en réalité derrière les États-Unis pour ne prendre aucun retard, hein, c'est ce qu'ils disent. Mais il faut savoir que ce genre de mesure, hein, la convergence NBIC, ça a un caractère possiblement totalitaire. Donc nous n'avons pas du tout été informés là-dessus. Moi, je l'ai découvert par hasard en lisant, parce qu'il faut bien se renseigner et essayer, mais c'est quand même extrêmement grave. Donc il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut renforcer le poids du Parlement.
Absolument.
Et moins l'intergouvernemental. Alors effectivement, le fédéralisme, ça peut apparaître comme un gros mot, et pourtant, si on veut avoir une Europe qui fonctionne, ben, il faudra y passer un jour ou l'autre, sinon ça ne marchera jamais. Pour autant, aujourd'hui, on nous fait quand même quelques enfants dans le dos. Et ça, je crois que ça va contre l'idée européenne.
Oui, et puis peut-être aussi que la démocratie, le rapport entre la démocratie et le territoire dans lequel elle s'exerce, qui est une vieille question quand même, hein, de 1789 en France, hein, comment la République fait fonctionner quelque chose de démocratique au-delà de la proximité? C'est-à-dire, et donc la démocratie représentative, etc., etc., dont on est arrivé à peu près à trouver un équilibre et une visibilité en France, est confronté à quelque chose de redoutable à l'échelle du continent européen. Hein, je veux dire, nos ancêtres, comme diraient les Américains, les pères fondateurs ont été confrontés à ce genre de truc-là. Moi, quand on lit Rousseau, déjà, c'est d'entrer dans cette question-là. Et là, on est, me semble-t-il, dans quelque chose, dans l'incapacité, mais peut-être parce que l'enjeu, encore une fois, n'était pas tant politique qu'économique, d'arriver à construire quelque chose qui tienne à peu près la route. Ça tient pas la route. Alors, et réaction par rapport à ce que dit Laure. Moi, je crois qu'effectivement, ce qui se passe, c'est que les gens ont la perception que les problèmes aujourd'hui se jouent beaucoup à l'échelle européenne. Mais je pense que les gens ont aujourd'hui la perception que les choses se jouent à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que l'Europe est, alors qu'il y a 50 ans de ça, cette représentation qu'on pouvait avoir des enjeux était limitée à la province, au mieux aux frontières de l'État-nation. Et là, voilà. Mais c'est une longue maturation. Mais je crains que si on continue toujours avec les mêmes dispositifs, les effets pervers seront plus important que les effets positifs, c'est-à-dire que les débats politiques n'arriveront pas à déboucher ou à construire sur des choses qui soient des choses un peu maîtrisées.
Et pendant ce temps, il y en a qui avancent, c'est les États-Unis. Très rapidement, notre pouvoir d'achat a baissé par rapport à celui de l'Amérique moyenne d'au moins de 20%, hein, donc on est quand même très en retard. Oui. Les États-Unis ont une politique très agressive pour attirer les industriels chez eux, nous ne l'avons pas. Quant aux Chinois, ben, on sait ce qui pèse, hein. C'est sûr qu'on ne va pas toujours focaliser sur la Chine, mais aujourd'hui, si la Chine disait à M. Poutine « bon, on arrête, c'est terminé », on arrêterait. Le poids de la Chine en Afrique est extrêmement important aussi. Donc aujourd'hui, c'est l'empire du milieu, ce qui les intéresse, c'est eux, c'est pas nous. Mais on les gêne quand même quelque part, bien qu'ils soient très intéressés aussi par notre marché, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, panneaux solaires, bah, c'est les Chinois, les voitures électriques, c'est les Chinois, etc., etc. Les terres rares, c'est eux qui les ont, c'est pas nous, pour l'instant. Donc,
Certains économistes disent en substance ce que disait ma grand-mère, c'est que tout ce qui leur court après ne les a pas encore attrapés aux Chinois. C'est-à-dire qu'on est dans une phase qui est une phase économique, comme à l'heure actuelle, un petit peu euphorique. Mais l'économie chinoise est pas autant en expansion qu'on peut l'imaginer, qu'à un moment donné, il faudra passer à la caisse, comme les États-Unis d'ailleurs, qui vont avoir un peu léger problème à un moment donné avec leurs dettes.
Oui, puis ils ont une reproduction chez eux. L'enfant unique, ça, ils vont le payer cher aujourd'hui. Hein. Donc là-dessus, il y aura certainement un problème et la société va être déséquilibrée à un moment ou un autre. Eh bien, écoute, autre chose que vous vouliez dire, non, je regarde autour de moi, personne ne voulant plus s'exprimer. On peut peut-être passer au deuxième sujet, qui est la liberté d'expression dans la France de M. Macron. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour l'introduire, je pourrais dire que, d'abord, il faut désarmer les grincheux habituels. Hein, on sait pertinemment que nous ne vivons ni en Chine ou en Russie ou dans quelque autre pays dirigé par des autocrates mafieux. Donc ça, une fois qu'on l'a dit, ça mange pas de pain. Ce qui n'empêche quand même pas d'être vigilant et chatouilleux quant à la liberté d'expression qui s'exerce dans notre pays. Et justement, depuis quelque temps, on pourrait situer d'ailleurs ça à l'arrivée de M. Macron à l'Élysée, il semblerait que cette liberté d'expression connaisse de plus en plus des cornes, que cela en devient d'ailleurs inquiétant. Interdiction de manifester sur la voie publique, de prendre la parole en certains lieux, par exemple dans les universités. Laure nous dira tout à l'heure ce qu'elle en pense. Au motif que l'ordre public pourrait être troublé, une justification ainsi systématiquement retoquée par les juridictions administratives. On le voit, hein, il semblerait d'ailleurs que le pouvoir macronien se dédouane en interdisant dans un premier temps, sachant que le juge va annuler l'interdiction. Et on fera porter éventuellement l'opprobre s'il y a des déportements sur le juge. Technique d'enfumage qui a déjà été utilisée lors du vote de la réforme des retraites, vous vous en souvenez, on s'est quand même un peu défaussé sur le Conseil constitutionnel, dont le président Laurent Fabius a donné quelques leçons de droit à un président et ses affidés qui prenaient des libertés dont ils sont pourtant garants au niveau de l'application. Alors vous savez ce qu'a écrit le Canard Enchaîné dans son édition du 7 mai, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, que des jeunes manifestent pour la paix, s'indignent des milliers de morts que fait la guerre entre Israël et le Hamas, en écho à la mobilisation en cours sur plusieurs campus aux États-Unis, c'est plutôt ça. Puis j'ajouterai que c'est habituel à toutes les époques hein, que l'on occupe des amphis, que l'on fasse des AG où les esprits s'échauffent. Quoi de plus naturel chez de jeunes gens et au surplus dans un institut d'études politiques, mais aussitôt intervention musclée des forces dites de l'ordre. On a vu certaines photos que vous avez mises d'ailleurs au film que vous avez mis Laure sur Facebook que j'ai pu regarder. Et puis, si vous laissez aller quelques exemples, mais à quelques vases, alors peut-être un peu vaseuses, mais qui font sourire, comme c'est leur rôle du style Benjamin Netanyahu est un nazi sans prépuce. Aussitôt plaintes et menaces de licenciement, ce qui donne d'ailleurs un retentissement fabuleux à la dite blague qui aurait mérité donc de passer très rapidement. Peu importe que le parquet n'y ait vu aucune infraction, Madame Van Rett, vous savez, la nouvelle patronne de France Inter, que l'on devrait peut-être plutôt appeler Madame Van Red, sort sa matraque. Donc, eh ben oui, on est dans les vannes vaseuses, donc je m'en permets une. Oui, alors, oui, bon, oui, les exemples de ce tabac-là, il y en a pléthore, hein, des arrière-pensées de Roland politique frelatés, des arrière-pensées électorales, qui n'honorent pas leurs auteurs, d'où ma question, où allons-nous à cette allure, au secours Xi Jinping, ils sont devenus fous. C'est vrai que j'aime bien parler des Chinois de plus en plus.
Oui, 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 c'est oui, carrément.
C'est l'amour de la Chine. Alors,
c'est la paranoïa.
Absolument, sur l'obsession. Sur cette question, Laure Ortiz.
Oui, alors moi, sur cette question, c'est pas nouveau, hein, mais c'est pas nouveau, mais j'adhère assez à une présentation de la liberté d'expression, plutôt des dérives qui se passent autour de la liberté d'expression, qu'a mis en valeur un prof politiste qui s'appelle Denis Ramon et qui dit que la liberté d'expression, aujourd'hui, elle fait l'objet d'une captation identitaire. Et qu'elle est fortement revendiquée par des courants politiques qui l'utilisent, la liberté d'expression, justement pour à la fois désarçonner toute une critique qu'il qualifie de woke, de wokisme, c'est-à-dire, par exemple, les critiques décoloniales,
On ne peut plus rien dire.
De genre, etc. C'est-à-dire tout ce que les autres désignent comme le politiquement correct qui ferait régner une terreur. Et donc, on a, alors que la liberté d'expression est traditionnellement et depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, une des libertés les plus fondamentales, une assise de la démocratie, et qui est là justement pour essayer de protéger souvent les postures minoritaires, enfin les paroles minoritaires, de l'emprise des pouvoirs. On a aujourd'hui un retournement de l'usage de la liberté d'expression et qui est surtout utilisé à la fois pour prononcer des choses totalement décomplexées. Sarkozy disait d'ailleurs, et puis même c'est dans la, puisqu'on parlait de l'Europe tout à l'heure, c'est dans le programme de reconquête, l'interdiction de toutes les expressions wokistes à l'échelle européenne et la possibilité et le renforcement de la liberté d'expression sans biais politiquement correct. Donc c'est en effet le droit de se libérer de la tyrannie des minorités, ça c'est une expression de Sarkozy, c'est pour ça que je disais c'est pas tout à fait nouveau. Et donc voilà, il y a une sorte de captation de la liberté d'expression et qui est utilisée la liberté d'expression pour faire taire un certain nombre de revendications critiques et de postures critiques. Voilà ce que je... de postures critiques.
Jean-François ?
Oui, quand il n'y a pas de réponse politique, quand il n'y a pas de capacité à parler politique, c'est la répression. C'est vieux, ça aussi, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire quand l'espace du débat est interdit, les dominants... Ceux qui ont le pouvoir font jouer de la matraque, hein, et criminalisent a priori ceux qui souhaitent s'exprimer. On avait un système lié à la liberté d'expression qui était relativement équilibré en France, dans lequel en gros la liberté prime sur l'interdiction, c'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut pour autant qu'on ne transgresse pas un certain nombre de règles qui sont des règles, voilà, qui ont été relativement précises, voilà. Aujourd'hui, soyons clairs, là où ça se voit beaucoup, c'est par rapport effectivement à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Que d'ailleurs, à la différence du canard enchaîné, je n'appellerai pas la guerre entre Israël et le Hamas, mais que j'appellerai aujourd'hui à la destruction de Gaza par Israël. C'est pour être un peu plus précis, parce que je crois que la réalité...
Ben, oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est celle-là. 34 000 morts, des villes
voilà,
rasées...
Voilà. Et on n'est pas dans un conflit qui serait un conflit dans lequel on aurait deux parties qui sont des parties équilibrées. Et cette espèce de fiction... C'est pour ça que ça m'étonne un peu de la part du Canard Enchaîné, qui est la fiction diplomatique et politique que souhaite entretenir le gouvernement français. Voilà. Et pas du tout, ne supporte pas du tout, effectivement, qu'on puisse à un moment donné, penser autrement. Moi, je trouve que c'est fait. On nage dans le mensonge, enfin, à minima la mauvaise foi, voire le mensonge, quand on fait référence, par exemple, à ce qui s'est passé dans les initiatives et dans les universités, dans lesquelles, moi, j'ai écouté les débats autour de... que j'entendais à la... dans lequel on avait l'impression que l'université était traversée par des vagues d'antisémitisme absolument terribles et que les gens qui occupaient les universités, ce qui est quand même quelque chose, comment dire, bon, je sais pas, mais dans mon existence maintenant qui commence à avoir un peu de durée, les occupations d'université font partie de la pratique et la pratique entre guillemets des libertés en France. Alors avec des hauts et des bas, mais c'est toujours compliqué la liberté. Il y a des tensions et des trucs comme ça. Mais je ne vois pas en quoi occuper une université d'abord serait criminel, hein, parce que là on est carrément dans la criminalisation de ce genre de choses. Et je ne comprends pas que des gens puissent se scandaliser du fait que des étudiants, à un moment donné, se posent des questions par rapport à ce qui se passe à Gaza, ou revendiquent le fait que ce qui se passe à Gaza est quelque chose d'insupportable, sauf à être traité d'antisémite. Je suis particulièrement choqué là-dessus, parce que je veux pas me décerner de brevet d'antisémitisme, mais je refuse à quiconque le droit de me dire que je suis antisémite, d'entrée. Parce que effectivement, j'estime un certain nombre de choses en termes d'analyse, et c'est bien d'analyse qui sont posées, et de penser les choses différemment que la manière dominante, et de le dire. Hein, et il y a une espèce de disqualification. C'est là où je dis que quand le débat politique est pas possible, et je pense que le gouvernement, c'est toujours une situation de faiblesse politique. Hein, un gouvernement qui interdit la liberté d'expression, et qui répond par les matraques, c'est un gouvernement qui est un gouvernement faible. Et nous sommes aujourd'hui confrontés en France à un gouvernement qui est de plus en plus faible, et qui donc est de plus en plus raide. Et on commence à le voir, ça se voit effectivement à la radio. On peut, Meurice peut faire des vagues, des vannes que tout le monde n'apprécie pas. Il a le droit de le faire dans le registre dans lequel il a fait. D'ailleurs, effectivement, la justice est passée là-dessus. J'ai quelques échos de gens, y compris de la profession, qui ne comprennent pas aujourd'hui les positions qui sont prises à Radio France par la direction au regard de ce qui se passe. Et qui se posent vraiment des questions sur la dérive, quoi, d'une certaine manière.
Laure Ortiz ?
Oui, il est difficile en fait de parler de liberté d'expression, parce qu'à la fois on dit qu'il y a une violation de la liberté d'expression, or ce qui se passe, c'est que la revendication de la liberté d'expression, elle est complètement au cœur du discours, y compris, je te dis, du Rassemblement national et de Reconquête.
Oui.
Par exemple, ils mettent « garantie », j'ai retrouvé la phrase, « garantie de la liberté d'expression la plus large possible, sans biais politiquement correct ». Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer quand on condamne la politique d'Israël mieux, quand on se pose la question de savoir, d'ailleurs, si c'est possible, un État juif ou un État chrétien, sans que ça produise de la discrimination, de l'apartheid, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, en effet, occuper Sciences Po, non pas pour dénoncer... comme on l'a fait, on est tous Charlie, et on ne veut pas, en effet, que l'expression soit, même si elle blesse des convictions religieuses, soit interdite. Mais là, tout d'un coup, on ne peut pas, par exemple, dénoncer l'islamophobie, confère ce qui s'était passé à l'université de Grenoble. On ne peut pas, en effet, occuper une cour de fac
oui,
pour
oui.
appeler à...
Ou la rue.
ou la rue pour appeler à la fin, à un cessez-le-feu à Gaza. Donc non, ce qui se passe en fait, c'est qu'on a, on circonscrit, on exclut de la sphère de la liberté d'expression, comme tu l'as dit, en constituant les expressions qu'on ne veut pas, les opinions politiques qu'on ne veut pas entendre, en les constituant sous forme de délit. Donc on a aujourd'hui, par exemple, une instrumentalisation de l'antisémitisme qui est absolument incroyable, et une volonté d'aller plus loin, c'est-à-dire, par exemple, on a des propositions de loi pour constituer en délit même l'antisionisme. L'antisionisme n'étant que le cache-sexe actuel de l'antisémitisme, dixit M. Macron lui-même, en 2019. Donc, on voit là toute une opération pour rendre quasiment illégal, illégitime, en tout cas illégal sur le terrain universitaire, un certain nombre de positions. Et c'est ce que Blanquer avait fait, par exemple, avec tout ce qu'il a embarqué sous le concept de wokisme, qui est un rassemblement de toutes les opinions critiques dont on ne veut pas entendre dans la droite française.
Léna, un mot ou pas ?
Oui, le gouvernement aussi n'est pas le seul responsable de cette restriction de la liberté d'expression. On peut le voir aussi avec Meta, qui est une entreprise qui détient Instagram et Threads, qui a annoncé il y a quelques jours réduire la visibilité de tous les contenus politiques sur ces plateformes. Du coup, aussi, ça amène à une atteinte à la liberté d'expression, à restreindre tous les contenus politiques.
Oui, oui. La dispute politique n'est plus possible. Elle serait dangereuse. Autrement dit, il y aurait une pensée lisse et uniforme qui serait admissible et pas le reste.
Mais c'est intéressant en même temps ce que dit Léna sur le fait qu'en effet, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la liberté d'expression sans parler aussi des médias par lesquels on véhicule. Où est-ce qu'on s'exprime ? Et donc, la question de la liberté d'accès et la question du pluralisme des moyens de communication qui assurera donc cet objectif à valeur constitutionnelle qui est le pluralisme des courants d'opinion. On n'a qu'à regarder le mouvement de concentration qui se produit dans la presse, le mouvement déjà totalement concentré, en effet, dans les mains des GAFA, des réseaux. Et on a le plus grand souci à se faire, oui, en effet, sur les lieux, les moyens de l'expression, et pas simplement se faire du souci sur tous les contenus prohibés, interdits, moralement ou juridiquement, sur la scène politique française aujourd'hui.
Le temps avance très vite.
On nous annonce juste, j'ai l'appris il n'y a pas longtemps, une prochaine commission parlementaire sur le wokisme à l'université.
Oui, donc nous aurons certainement à redébattre et à reparler de cette question. On n'avait pas vraiment mis au programme, mais il faut quand même en dire un mot sur la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que Macron a annoncé aujourd'hui l'instauration de l'état d'urgence sur l'archipel. Et Gabriel Attal promet de restaurer l'ordre dans les plus brefs délais, bon, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais comme ce garçon est toujours dans l'écume,
et le mouvement de jugulaire,
dans la communication, voilà. Jean-François,
oui, moi je suis juste, j'ai tenu effectivement à l'évoquer parce que on est dans une actualité très chaude. Hein, avant de démarrer l'émission, on en était à 4 morts, hein, donc un gendarme. Peut-être que à l'heure où nous parlons, le bilan s'est encore aggravé.
Si tu permets, c'est d'autant plus chaud que, au fond, c'est le produit d'une politique totalement pyromane.
Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai un peu de proximité avec ce qui se passe là-bas, avec des gens qui étaient là-bas. Et je connais un peu, et pour y être allé, pour avoir beaucoup travaillé avec des jeunes, avec des responsables politiques, y compris indépendantistes kanak. Mais je suis effaré, moi, d'une part, par effectivement ce qui est en train de se passer, qui est le produit d'une incompétence politique ces derniers mois, voire ces dernières années. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est dans ces deux ou trois dernières années qu'on a laissé partir le dossier néo-calédonien à volo, Hein, alors qu'on sait que c'est quelque chose à la fois qui est très dangereux, hein, mais que par ailleurs aussi c'est le laboratoire démocratique, la Nouvelle-Calédonie, s'y passe des choses qui sont des choses qu'il faudrait suivre de très près, parce que ce qui se passe là-bas renvoie à d'autres espaces sur la question de l'identité territoriale ou des choses comme ça. Et je crains que c'est y compris en écho avec ce que j'ai dit avant, le manque d'étoffe politique, de compétences et l'essoufflement des gens, des gouvernants aujourd'hui, nous amène à une situation extrêmement grave. L'état d'urgence, les discours martiaux, qui sanctionne le fait qu'on n'a rien fait depuis des mois. On va filer ce dossier, on va continuer à filer ce dossier à un ministre de l'Intérieur qui ne sait qu'aboyer et qui est complètement discrédité, y compris par les loyalistes en Nouvelle-Calédonie. Moi, j'ai des contacts avec les loyalistes qui disent on n'en veut pas parce qu'il va nous foutre le feu, parce qu'eux savent qu'il va falloir y vivre là-bas. Je voulais qu'on en parle parce que je pense que c'est quand même grave.
La plus belle critique que j'ai entendue de la situation en Nouvelle-Calédonie et pourquoi on en est là et comment d'ailleurs aussi on pourrait s'en sortir un peu, je l'ai entendue ce matin de la part de Monsieur Gomez, qui est le président de l'association Tous Ensemble contre l'indépendance.
Calédonie Ensemble, ça s'appelle son mouvement.
Ouais, voilà. Et donc, c'est clair, hein, c'est pas un indépendantiste.
Il a été lumineux.
Lumineux. Il a exactement dit ce que tu dis là, c'est-à-dire que le dossier calédonien doit être traité au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le
ce qui a été
Premier
fait
ministre.
Pendant longtemps.
Ou le président de la République, et que c'est la catastrophe absolue. Ça a été Darmanin et le ministre de l'Outre-mer, dont le nom m'échappe, qui a géré le dossier juste avant. Et ces gens-là n'ont fait que mettre le feu. Et ce qui est dit aujourd'hui, c'est que l'attitude de Macron, qui consiste à mettre un couteau sous la gorge des Calédoniens, en ruinant tout intérêt du débat, puisqu'il dit « si vous ne vous mettez pas d'accord d'ici telle heure, je vous avertis, le corps électoral est dégelé ». Je vois vraiment pas du tout pourquoi aller négocier. Si je suis loyaliste, bien évidemment, je plombe la discussion, parce que finalement, le dégel, qui est ce que je veux, va se mettre en place automatiquement. Donc là, vraiment, ce que disait Gomez ou d'autres, je ne sais pas, c'est qu'il n'y a aucune mémoire au sein de l'État, ce qui est terrible, aucune mémoire de ce qui s'est passé. Mémoire de ce qui s'est passé depuis
1988. Et on va compter les mots.
Ouais.
Eh bien, il y en a déjà quatre, oui, effectivement. Oui. Je viens de le vérifier, dont un jeune gendarme de 22 ans, et les autres, je n'ai pas leur âge et leurs conditions. Bien, le temps est largement venu de conclure par nos rubriques de fin d'émission, les brèves dont la mienne, je vais la faire aussi brève que possible, juste pour vous dire de vous intéresser à la commission d'enquête sénatoriale sur le trafic de drogue, hein, qui a rendu ses conclusions. Donc c'est un travail qui a été accompli entre novembre 2023 et 2024, hein, qui n'est pas totalement exhaustif, notamment parce que la dimension sanitaire n'est pas présente, mais c'était volontaire, je crois. Mais il y a quand même, elle dresse un panorama sans concession de ce phénomène social qui est souvent ignoré par les gouvernements de tous bords. Aujourd'hui, on a vu qu'on faisait quelques opérations de com' en arrivant en force, on vient, on repart, et puis c'est terminé. 2 heures après, ça recommence. Donc tout ça n'est pas sérieux. Les professionnels le disent et s'en plaignent. J'imagine aussi que la réforme de M. Darmanin, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, de la police judiciaire, ne va pas aider les choses, parce qu'il a quand même un peu cassé les pattes, si vous me passez l'expression, à la PJ. Sachez qu'aujourd'hui, quand même, il y a 1% de la population active en France qui vit directement ou indirectement de la drogue. Il y a tout ce problème sanitaire autour que Jean-François connaît bien. Peut-être un jour, nous le mettrons à l'ordre du jour. Une brève, Jean-François ?
Oui, une brève. On en parle beaucoup. Elle nous empêche de circuler. Elle encombre nos téléviseurs. Elle coûte en gros 540 000 euros par département. 180 000 euros pour les collectivités territoriales départementales, 360 000 euros pour les sponsors, Pour une ville comme Millau, elle aura coûté 20 000 euros. Vous la reconnaîtrez, c'est la flamme olympique.
Oui, qui nous amuse beaucoup. Enfin, qui nous amuse mollement. L'orbe ou de Brève, peut-être.
Oui, pourquoi pas. Moi, je pensais comme Brève, justement, à cet effort qui est accompli à l'heure actuelle à Genève pour conclure un traité qui marine depuis 20 ans, qui est le traité sur la biopiraterie et les brevets du vivant, et qui vise notamment à introduire un certain nombre de contraintes, notamment celle de divulguer les lieux d'où proviennent les inventions, les matériaux, les substances, etc., et de créer... En tout cas, de permettre aux peuples autochtones de protéger leur savoir et les ressources génétiques qui sont sur leur territoire, ou en tout cas éventuellement de les associer aux revenus. Donc, ce serait un grand progrès, je trouve, en direction de la protection des peuples autochtones. Voilà, reste à savoir si ils arriveront à conclure le traité, c'est pour le 24 mai.
Alors, rubrique « ça va mieux », c'est toujours très compliqué, trouver quelque chose qui aille bien dans ce monde qui est complètement devenu fou. Moi, je vais vous parler de grivellerie, vous savez ce que c'est que la grivellerie, oui. Hein, la justice vient de le confirmer, les élus, notamment les barons locaux, élus et réélus éternellement, ne peuvent pas vivre sur la bête, donc sur le dos des contribuables. Exemple, ex-maire de Toulon, Hubert Falco, qui a été définitivement condamné pour avoir déjeuné et fait travailler chez lui des agents du département, le tout aux frais de ses concitoyens. Alors, la honte n'étouffe pas le garçon, puisqu'il paraît qu'il veut maintenant ce pouvoir en cassation pour laver son honneur, qui, je ne sais pas s'il lui en reste beaucoup, il n'y a peut-être pas grand-chose à laver. Puis, il y a quelque chose qui va mieux aussi, c'est dans les PO, vous savez, dans la rubrique « les PO s'amusent », hein. On a fait les curés qui ont processionné en tête pour faire tomber la pluie, puis on s'est dit, tiens, on va créer un golf dans ce département qui est durement frappé par la sécheresse, Léna le connaît bien. Eh bien, je vous rassure, nos amis catalans français pourront profiter de leur piscine cet été, parce qu'ils ont trouvé comment trouver de l'eau, tout simplement, ils vont dans les régions voisines, ou dans le Rhône, mais alors ils sont encore plus originaux, ils vont dans la péninsule ibérique, où pourtant il n'y a pas beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, ils vont chercher l'eau en Espagne avec des camions citernes, on est à côté, il y en a un qui a dit c'est moins cher, on en profite, voilà, donc...
C'est pareil pour la neige et le ski.
Ben voilà, tout va très bien, remarquez ici, notre président du conseil départemental, n'avait-il pas monté de la neige par hélicoptère à la station de... Voilà, puis la super bannière, et puis après on supprime les subventions du théâtre, de la cité, mais la culture, apparemment, on s'assoit dessus. Jean-François ?
Oui, ça va mieux. Alors, très rapidement, on est très inquiets tous ici pour l'Europe, mais vous allez voir, ça va mieux. Il y a quelqu'un qui a une solution. Ça pourrait être un quiz de début d'émission de Jacques. C'est celui qui a dit « Je me fous de Bardella, je suis là pour faire remonter le niveau de testostérone de l'Europe. » Ça va aller mieux.
Qui a osé dire ça ?
Eh bien, le même, l'inoxydable, Willy Schrein, de l'Alliance Rurale, le président de la Fédération des Chasseurs de France. Vous allez voir, avec l'Europe et la testostérone, ça ira mieux. Mesdames, vous savez pour qui voter.
Avec des candidats de ce calibre, on est bien équipés, l'Europe est sauvée, la France aussi, le monde aussi. Alors ?
On en est à la bonne nouvelle.
Oui.
Bon, alors deux bonnes nouvelles. Oh. Une c'est, elle est spécialement dédiée à Monsieur Lavergne, parce que ça contredit totalement le pessimisme économique de son discours au début de l'émission. Les investisseurs choisissent la France. 15 milliards d'euros qui nous tombent dessus. Les entreprises sont choyées. Merci. Grâce à la politique de Monsieur Macron de plafonnement des indemnités de licenciement, de stabilité, d'allègement fiscal et de réception organisée à Versailles.
Oui, des entreprises qui viennent. Alors, ce n'est pas les grosses entreprises qui viennent. Je crois qu'il y a on va fabriquer des frites. hein, ici.
Non, oui. On va pas fabriquer. Ah non, on va décarboner les 3 usines en France de McCain.
Ah oui, de McCain, voilà, qui font des frites, ouais. C'est intéressant. Non, non, non. Puis ouais. Après, on va implanter aussi des centres pour Internet, hein, mais que dont personne ne veut parce que c'est tellement consommateur d'eau que personne n'en veut.
On les mettra à l'EPO.
Donc on nous les refile. Mais
bon, il y a 4 milliards d'euros de Microsoft.
Oui.
En fait, bon, j'ai une autre bonne nouvelle. J'ai une autre bonne nouvelle. Alors celle-là, elle est pour Jean-François et ses chasseurs. Ah. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, il y a un très très grand progrès du marché de. Alors là, je suis sûre que vous n'allez pas me la piquer. Des culottes menstruelles bio, fabriquées totalement en France, avec des matériaux français. Recyclables et qui se lavent et qui pourront peut-être qui permettront peut-être un jour d'en finir avec la consommation de tous les produits de protection intime. Les femmes utilisent entre 6 000 et 13 000 produits jetables pour la santé, ce qui fait un problème pour l'environnement. Et ce sont en général des produits qui posent souvent des problèmes de toxicité. Donc voilà, nous les filles, on a la Minette, enfin plus moi, mais voilà Minette qui est la fabrication française intégrale des culottes menstruelles.
Fabuleux.
Voilà. Avec Willy,
fabuleux. Allez, on termine par le conseil culturel. Bon, moi je vous en donne, je vous signale la revue d'Esprit d'avril 2024 dans son numéro 508 intitulé Le projet européen à l'épreuve. Hein, tout à fait passionnante. Mmh. Également, la revue Zadig Arte révèle l'Europe, qui n'est pas inintéressante. Et puis, je citais tout à l'heure Alain Gomard et Liffry, ces deux derniers livres, Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques, hein, très pédagogique, très intéressant. Et puis, le dernier, l'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. Vous verrez qu'il y a 3 endroits dans le monde aujourd'hui où passe ce qui nous sert à vivre et au quotidien et qui sont menacés parce que beaucoup de gens s'y retrouvent et ça peut flamber et exploser à n'importe quel moment. Laure, un conseil
De lecture, je
ou
peux.
De ce que vous voulez. Mm-hmm. Culturel.
Moi, j'ai une proposition de lecture. D'abord parce que l'auteur vit à Toulouse et que je la connaissais sous l'angle de prof d'histoire. C'est Nadine Picaudou. Elle a écrit d'ailleurs un bouquin dont je recommande totalement la lecture, même si il date de 92, il est terriblement d'actualité, plus que jamais. Il s'appelle « La décennie qui ébranla le Moyen-Orient » et c'est quelque chose qui permet de comprendre, je trouve, beaucoup mieux les enjeux. Mais c'est pas du tout pour vanter ce bouquin-là que je parle d'elle, c'est parce qu'elle écrit aussi sous le nom de Laure Catus. Catus, c'est le nom de son mari. Et j'ai lu récemment un bouquin qui m'a beaucoup intéressée, qui s'appelle « La couleur du temps », qui est paru aux éditions Arcane. C'est un bouquin de 2022 et c'est un bouquin très émouvant dans lequel elle suit finalement 2 parcours parallèles. L'un où elle est très intime, parce que c'est une femme endeuillée, elle vient de perdre son mari. Et l'autre, c'est un parcours dans 2 villes, Toulouse et Rome, où à la recherche des œuvres de peinture qui les ont réunies et qu'elle a beaucoup aimées. Et ça, c'est formidable parce que la peinture auquel elle s'intéresse, c'est la peinture des Caravagesques. Et elle nous entraîne dans la Toulouse et dans la Rome aussi, du XVIe siècle, du XVIIe siècle. Et moi, j'ai appris plein de choses, à la fois donc sur le mode de vie, sur la vie à Toulouse, à cette époque-là, et en même temps sur les 2 peintres auxquels elle s'intéresse. L'un qui est Nicolas Tournier, dont on a beaucoup d'œuvres au Musée des Augustins et à la Fondation Benberg. Mmh. Et l'autre, c'est Valentin de Boulogne. Alors, je suis assez admirative de ce bouquin qui est très particulier. Et je vous conseille de le lire, donc, Nadine Picaudou, alias Laure Catus.
Jean-François, pour terminer.
Moi, je vais être local. D'abord, une pensée un peu émue à quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours, dans le silence absolu de la presse mainstream. C'était un monsieur qui s'appelait Henri Gougaud. qui est né à Villemoustoussou, près de Carcassonne, et qui a été un grand monsieur de la culture française, parfaitement méconnu. C'est quand même quelqu'un qui a fait des paroles de chansons, par exemple, comme Juliette Gréco. Hein, et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a écrit des nouvelles, qui a écrit des romans, et qui, encore une fois, est parti en silence, dans la discrétion, comme il savait être. Je lui adresse un petit clin d'œil. Et puis, très vite, pour rester encore plus local, il va y avoir une exposition qui va démarrer au Matou Château d'Eau, hein, qui est maintenant au 58 allée Charles de Fitte. C'est la galerie Château d'Eau qui a déménagé pendant les travaux. Cette exposition s'appelle « Vivre à l'hôtel, forme méconnue du mal logement ». C'est une exposition photo. Quatre photographes, une urbaniste. Hein, j'ai participé un peu au fonctionnement de cet observatoire de l'habitat indigne qui a préparé. C'est une belle expo photo. Ça se passe du 29 mai au 30 juin. Allez-y, parce que c'est un aspect méconnu de ce qui se passe à pas très loin de l'endroit où nous habitons. Hein, c'est les naufragés du 115, on va dire, qui sont là. Si vous avez envie de boire un coup, en plus de voir l'expo, vous pouvez aller au vernissage. C'est le 28 mai, c'est à 18h. Et encore une fois, c'est au Matou, hein, musée de l'affiche, Château d'Eau, 58 allée Charles de Fitte à Toulouse.
Merci Jean-François, merci à tous, Léna, Mathis, Laure, merci Jean-François. Merci. C'était Ça va mieux, une émission justement de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Léo Touroult qui s'est si bien parlé à nos ordinateurs.
Et c'est tout un art.
Et tout à fait. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle soirée à toutes et à tous.